On commence et on revient sur l'affaire Benjamin Griveaux. Ça a été traité très longuement dans les journaux d'actualité, dans les émissions aussi, y compris en direct hier et aujourd'hui sur cette chaîne. Contentons-nous peut-être dans Soft Power de nous intéresser à deux aspects de cette affaire politique. La politique n'est pas le cœur de Soft Power, mais deux aspects concernent cette émission. D'abord, la question des réseaux sociaux, on y revient dans un instant, mais juste avant, on pourrait évoquer Piotr Pavlensky, cet artiste donc de 36 ans, russe, né en 1984 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui a commencé à se faire connaître en Russie par des actions souvent spectaculaires, proches au fond de l'atmosphère un peu où des Pussy Riots, d'ailleurs qu'il avait défendu. Il a fait des protestations nombreuses qui lui ont valu quelques arrestations avant d'être exilé et d'obtenir l'asile politique en France. Michel Guérin, cet artiste, vous en pensez quoi?
C'est un artiste, on a beaucoup entendu parler lui en fait en France au moment de son action à la Banque de France, quand il a mis le feu à la Banque de France à Paris. Il a une année de prison. Il y a eu un mouvement pour le défendre. Sur le côté, un an de prison pour un début d'incendie, c'est quand même cher payé. Et donc, il y avait eu pas mal de bruit à ce moment-là. Mais pas non plus énormément de gens pour le défendre dans les milieux culturels, ce qui m'avait frappé. Sous-entendu, j'ai l'impression que l'artiste était jugé incontrôlable et donc difficilement défendable pour ses actions.
Est-ce qu'on peut, on peut dire quand même ce qu'il avait fait en Russie, quand même. Ça, vous allez en parler, Michel.
Oui, non, mais allez, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en France, on l'avait très peu entendu parler à l'époque de ces. Pour moi, c'est plus des intentions au départ. Ce qui est étonnant, ce qui me surprend chez lui, c'est l'évolution. C'est-à-dire, c'était quelqu'un. Moi, je mets ça plutôt, j'inscris dans les actionnistes viennois, c'est-à-dire qu'il faisait des actions sur son corps, puisqu'il martyrisait son corps comme une espèce de symbolique pour dire un petit peu le régime russe, qui était un régime très difficile, fermé, autoritaire, voire dictatorial. Et puis, donc, c'était plutôt des actions sur lui-même. Et là, ce qui m'étonne un petit peu dans cette histoire avec Benjamin Griveaux, c'est qu'il fait une intervention où lui n'est absolument pas présent, mais qui concerne une tierce personne. Et c'est là, je le trouve.
Qui serait sa compagne, d'ailleurs.
Peut-être, je ne sais pas, mais ça, je veux dire, ça m'intéresse peu. Mais en tout cas, à l'arrivée, c'est là où je trouve totalement indéfendable. C'est que, autant quand il se met en jeu lui-même, depuis des années, que ce soit en Russie ou en France, je peux écouter et entendre ça. Là, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il c'est juste un espèce de il est juste un intermédiaire, quoi, comme une boîte aux lettres, et qui vient mettre en cause un responsable politique français, et donc, indirectement, moi, je trouve, la démocratie en France.
Claire Baumelard.
Oui, il n'a pas été tellement défendu par les milieux culturels parce qu'en fait, ça n'est pas vraiment un artiste, c'est plus un activiste.
Et il fait des happenings.
Il fait des happenings.
C'est aussi de l'art parfois, les happenings, mais bon.
Je suis d'accord avec vous, mais brûler la Banque de France, effectivement, c'était pour dénoncer le grand capitalisme.
Enfin, elle n'avait pas brûlé, mais bon, c'était un petit
c'était
feu.
C'était pour dénoncer le capitalisme. Cette fois-ci, il dénonce l'hypocrisie des politiques. C'est peut-être pas tout à fait perçu comme un geste artistique. D'ailleurs, on verra après qu'il est plus dans les questions de chantage aujourd'hui qu'autre chose.
Peut-être on peut le nommer, même si personne, tout le monde a du mal à le dire, ce qu'il avait fait en Russie. Donc en Russie, les premières nouvelles qu'on avait eues de ce jeune homme, c'était il y a 4-5 ans, 2014, dans mon souvenir. Il avait fait deux actions à peu près en même moment que les Pussy Riot. La première avait consisté à se coudre les lèvres. Littéralement avec un fil de fer, et la deuxième à se clouer les testicules devant le Kremlin. Donc on était sur des actes effectivement où il a tenté à son corps de manière assez violente. Et c'est vrai que même si effectivement école viennoise, il y avait une forme en tout cas d'empathie peut-être potentielle face à un artiste qui dénonçait le Kremlin, qui à ce moment-là était clairement effectivement dans une forme d'offensive face aux artistes russes radicaux. Donc effectivement il avait quand même une image de type un peu extrême, mais encore d'artiste. Là, c'est vrai que vient-il faire ici, le pays qui lui a offert l'asile politique, sur la mairie de Paris? Alors effectivement, il y a encore un enjeu sur le corps, c'est ce que certains ont essayé de noter, hein, puisqu'on est toujours effectivement sur des questions d'incarnation dans la chair, mais c'est effectivement pas la sienne, et on a du mal à faire une lecture qui rentre dans un quelconque discours artistique, c'est vrai.
Michel
Guérin. Juste rappeler quand même qu'au moment de l'incident de la Banque de France, le régime russe l'avait soutenu. Ouais. Il avait dénoncé, regardez la France, qui se targue d'être une grande démocratie, mais un de nos ressortissants en prison pendant un an, ce qui a relancé les supputations là depuis quelques heures sur le côté, est-ce que la Russie n'est pas intervenue une fois de plus dans le débat public français ?
Même si la Russie avait voulu l'envoyer en hôpital psychiatrique à l'époque pour ses actions sur son territoire.
Et son soutien au moment de l'affaire de la Banque de France était quand même assez troublant.
Alors l'autre question qui se pose autour de cette affaire, et ça concerne aussi Soft Power, c'est la question de la responsabilité alors d'Internet, des réseaux sociaux, la question aussi de l'anonymat qui a été beaucoup pointé. On a eu des leaders politiques, tout un tas de responsables qui ont demandé à ce qu'on sanctionne le fait d'être anonyme sur les réseaux sociaux et qu'on sanctionne aussi les réseaux sociaux. Certains ont même dit qu'il faudrait peut-être fermer un certain nombre de réseaux sociaux. Or, très paradoxalement, d'abord c'est pas anonyme, tout ça a été fait sur des sites qui avaient des noms, avec des... D'ailleurs, la preuve, c'est que cet artiste, son nom est apparu tout de suite. Et donc, la question de l'anonymat ne se pose pas réellement dans cette affaire. D'autre part, c'est un site, c'est donc Internet, de tout ce qu'il y a de plus classique, et non pas les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, pour une part, ont contribué à diffuser l'information. Mais ceux qui l'ont diffusé étaient aussi des comptes relativement, pour certains, au moins pour deux ou trois d'entre eux, relativement connus et pas anonymes.
Carrément connus. Enfin, je veux dire, on peut dire que la traînée de poudre est partie dans députés anciens LREM. Donc, on n'est vraiment pas sur une question de l'anonymat, en l'occurrence. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, effectivement, on est sur une affaire qui part d'Internet, qui est liée à Internet, mais dans sa diffusion, comme vous l'avez dit, on n'est pas dans un événement intrinsèquement lié au phénomène d'Internet, et c'est à cette occasion-là qu'une partie du personnel politique réclame la fin de l'anonymat. Or, effectivement, c'est très intéressant parce que précisément dans cette affaire, il y a plein de questions morales qui se posent, et on va en parler, notamment celle du revenge porn, mais pas celle de l'anonymat. Moi, je suis assez étonnée qu'on en parle à ce moment-là, alors que à bien d'autres moments de la vie politique, on a parlé des élections brésiliennes dans cette émission, on a parlé des élections américaines, on a parlé du Brexit, où là on est sur par exemple des milliers de bots, de robots qui jouent un rôle prépondérant dans la diffusion des informations. Là c'est pas du tout le cas, et pour le coup la question de l'anonymat ou la question de la validité des personnes derrière les comptes est une question qui peut vraiment se poser, notamment à l'aune des différentes échéances politiques qu'on va connaître dans les années qui viennent, mais c'est vraiment pas dans le cas dans cette affaire, c'est pas la question.
Alors pour finir sur ce dossier qui fait couler évidemment beaucoup d'encre, qui fait encore la une du JDD ce matin et de nombreux journaux ce week-end, la question OSS du revenge porn. C'est-à-dire au fond, il faut peut-être commencer par expliquer de quoi il s'agit.
Alors de quoi s'agit-il? Le revenge porn, c'est donc un de ces phénomènes de la vie intime, de la vie sociale, de toute une foule de personnes et en général de jeunes femmes qui existent et qui, comme le harcèlement à l'école, qui se poursuit par d'autres moyens.
D'abord qui se filment ou qui filment leur partenaire.
Alors, il s'agit, le phénomène du revenge porn, c'est une vidéo utilisée contre, c'est-à-dire sans l'accord de la personne qui est filmée, une vidéo d'ordre sexuel qui est diffusé sans l'accord ou en représailles.
Mais qui à l'origine a été parfois filmé avec l'accord de la personne.
Avec l'accord de la personne, c'est le principe. En fait, je vous invite tous à lire une tribune qui a été publiée hier soir par Libération, qui émane de Ovidie, ancienne actrice pornographique qui est aujourd'hui réalisatrice, qui est une militante, qui dit en se retirant, Benjamin Griveaux envoie un mauvais message. Et elle revient, elle justement, sur ce principe du revenge porn. Elle rappelle ce que c'est effectivement. C'est donc diffusion sur Internet de photos sexuellement explicites d'une personne sans son accord, et elle rappelle ce que, pour le coup, tout le monde, y compris dans les adversaires politiques de Benjamin Griveaux, a rappelé. C'est une pratique illégale en France, punie de 2 ans de prison et de 60 000 euros d'amende. Effectivement, tous les gens qui ont relayé le lien vers le site de porno politique sont potentiellement incriminables de ce point de vue-là. Et elle rappelle, Ovidie, qu'effectivement, Benjamin Griveaux n'a pas le profil classique de la victime. En général, la victime, dit-il, c'est plutôt une femme, voire une jeune fille, une travailleuse du sexe ou une personne LGBTQI. En l'occurrence, elle intervient beaucoup, et on le sait, c'est des pratiques qui sont extrêmement violentes et qui ont beaucoup lieu en milieu scolaire.
Beaucoup dans les écoles.
Notamment
au collège, principalement.
La plupart du temps, écrit Ovidie, ce sont ces jeunes filles qui sont contraintes de quitter l'établissement après avoir entendu de la part de la communauté éducative qu'il fallait, je cite, réfléchir avant d'envoyer ça. Et elle explique, Ovidie, qu'elle considère qu'on prend le problème à l'envers. Et donc, d'une certaine manière, elle regrette que Benjamin Griveaux, qui est dans une position plutôt de force, bien qu'il ait été très affaibli par cette histoire, eh bien, décide de se retirer de la campagne et non pas de dire, elle explique qu'elle aurait adoré rédiger son discours de vendredi. Je vous le confirme, il s'agit bien de mon sexe, je n'ai rien fait d'illégal. En revanche, je compte bien poursuivre ceux qui ont fait circuler ces photos parce que la loi m'y encourage et parce que la honte doit changer de camp. Solidarité avec toutes les victimes du revenge porn, évidemment, on le sait. Ce n'est pas ce que Benjamin Griveaux a choisi de faire.
Michel Guérin.
Oui, je comprends bien ce que veut dire Ovidie. Si Griveaux se retire, c'est pour des raisons familiales.
Exactement, ça c'est la vraie question.
Et c'est, il a dit 4 fois, je crois, lors de son intervention. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, vous avez raison, je pense que ce n'est pas une question de réseaux sociaux, c'est une question sociétale. C'est une question sociétale. C'est vraiment une question, nous on appelle ça au journal Le Monde, une forme d'américanisation de la vie politique, avec plein d'exemples aux États-Unis qui sont produits, ou même en Grande-Bretagne, dans des choses similaires, c'est-à-dire de vidéos à caractère pornographique. Voilà, c'est quand même très très inquiétant.
Claire Baumelard.
Je pense que ce qui a joué aussi, c'est effectivement les raisons familiales, mais aussi que l'artiste activiste a annoncé en avoir d'autres. Oui, c'est ça, oui. Donc il y a une forme de chantage et il n'est pas exclu que Griveaux en ait parlé à l'Élysée, qui a dit « tu te sacrifies parce qu'on ne peut pas comme ça avoir une boîte de Pandore qui s'ouvre ». Peut-être aussi qu'il a été le sacrifié de l'affaire, Griveaux.
Oui, sans qu'on sache aussi les autres vidéos.
On ne sait pas, c'était un chantage.
Elle concernait aussi Benjamin Griveaux ou d'autres personnes. Réaction, Sarah Hugonenc.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que le ministre de la Culture et de la Communication a réagi aujourd'hui en disant que la condamnation ne devait pas toucher que l'origine de la vidéo, mais aussi tous ceux qui auraient aidé à la propagation de la vidéo par des retweets, par des partages sur les réseaux sociaux. Et que là, tout d'un coup, on a une onde de choc qui se profile à l'horizon, qui voudrait dire que donc à partir du moment où on partage une information, par nature, on serait d'accord avec.
Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que peu de gens finalement l'ont partagé.
Très peu de gens
l'ont partagé, comme si d'ailleurs ce réflexe était quand même relativement bien intégré par les Français.
De la même manière, partager le lien vers le site.
Partager le lien vers le site et encore.
C'était le cas de Laurent Alexandre qui s'en est excusé d'ailleurs aujourd'hui, ou aussi du député donc LREM
qui a argué du fait qu'il voulait prévenir Benjamin Griveaux. Ouais. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais pour
contribuer à l'hypocrisie,
à diffuser la vidéo.
Mais pour en revenir à ça, Michel Guérin, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que effectivement, la plupart sur le fond, si critique il y a, c'est plutôt sur le thème effectivement, et on le voit, il est plutôt du même ordre que celle qu'on fait aux jeunes filles dans les lycées, c'est-à-dire c'était peut-être pas très judicieux de faire ce genre de choses quand on est porte-parole du gouvernement. C'est en ça d'ailleurs, ça, je pense que la tribune
d'Ovidie, c'est évident.
Mais j'ai pas l'impression en tout cas, et là-dessus, je trouve qu'il y a une forme de singularité française qui persiste. Il y a pas eu vraiment de vraies critiques, en tout cas, même de la part des adversaires politiques sur le fond de l'affaire et sur le fait qu'on puisse être infidèle. Il me semble pas que ce soit le cœur du débat.
Notamment parce qu'il venait de démissionner, il l'aurait pas démissionné, il aurait peut-être eu un discours tout à fait différent. Enfin, bref, je pense qu'on aura l'occasion sur cette antenne et sur d'autres, dans vos journaux réciproques, que ce soit Le Figaro ou Le Monde, etc., d'autres articles sur cette question dans les jours à venir. On revient sur la question des victoires de la musique et aussi des Césars, Zoé Sfez. Les victoires de la musique, c'était vendredi soir.
Et les Césars, on en parlait la semaine dernière, semaine extrêmement chargée. En fait, il est intéressant de regarder comment ces deux institutions donc, qui remettent des prix dans les deux registres que sont le cinéma et la musique en France traversent chacun une crise assez importante. À deux égards. Donc, pour revenir sur les Césars, on avait effectivement parlé la semaine dernière des propositions d'Alain Terzian, qui dirige les Césars, donc producteur depuis 2003, ça fait donc 17 ans, pour tenter d'amender un système jugé opaque. Entre-temps, en début de semaine dernière, une tribune émanant de 400 des membres de l'Académie des Césars. Je rappelle que cette Académie rassemble 4200 membres à jour de leur confidation, de leur cotisation. 400 membres de l'Académie dénonçaient justement toujours cette gouvernance opaque. Et jeudi matin, dans un communiqué relativement sibyllin, il faut le dire, la direction des Césars a remis sa démission massive à l'unanimité. Donc communiqué qui explique... Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité, pour faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration de l'association pour la promotion du cinéma a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Alors ce communiqué est étonnant à plusieurs titres. D'une part parce qu'il ne mentionne pas Alain Terzian, il n'est pas fait mention de ce qu'il va advenir d'Alain Terzian. Or, grande partie des critiques portaient essentiellement sur son rôle. Cette fameuse direction, elle était composée de 45 professionnels du cinéma qui sont cooptés à vie par leur père ou qui sont récipiendaires d'un Oscar. Et il est dirigé par un conseil de 21 membres, très largement masculin. Effectivement, ce qu'on savait depuis assez longtemps, c'est que la désuétude de cette direction, qui n'est pas donc élue par les membres de l'Académie des Césars, faisait toujours l'objet de critiques. L'absentéisme aussi d'une grande partie de ses membres était, disons, critiqué en interne par la profession. Alors, que va-t-il se passer? On est à moins de deux semaines de la cérémonie. Dominique Thomas, le directeur du CNC, doit superviser, je cite, la profonde réforme des statuts et la gouvernance de l'Académie. On avait parlé de tout cela. Il est question de faire entrer 700 à 800 femmes dans l'Académie des Césars et notamment de changer les conditions d'entrée pour devenir membre. Toute une série de revendications, notamment celles portées par le producteur Saïd Ben Saïd, c'est-à-dire tout simplement l'élection des administrateurs de l'Académie César par les membres de l'Académie des Césars. La question d'Alain Tarjan, elle, reste absolument entière. On va voir aussi comment la cérémonie prend en charge, en termes de blague ou pas, cette question-là. Et puis, même problématique de nature différente du côté des Victoires de la Musique. C'était vendredi, donc la 35e édition de ces Victoires, avec un gros changement, puisqu'on est passé de 13 catégories à 8 catégories. Toutes les étiquettes de genre rock, électro, musique du monde, mais aussi musique urbaine, qui était un terme qui agaçait certains, eh bien, ont disparu au profit de catégories, disons, globales, albums de chansons, albums. Le tout était d'avoir une meilleure visibilité, essayer de défendre Romain Vivien, qui est le président des Victoires de la Musique. On voulait éviter de catégoriser les artistes, dit-il. Le public ne s'y retrouvait pas, et puis c'était une demande des artistes qui nous disaient « on veut concourir avec tout le monde ». Théoriquement, donc, l'idée part d'une plutôt bonne volonté, celle d'évoluer, d'en finir avec les précarés, avec les étiquettes, et donc ne demeure que les catégories reines. L'idée aussi, c'était que toutes les nominées puissent chanter, alors qu'auparavant, du coup, au regard du nombre de catégories, il n'y avait que les gagnants qui chantaient. Sauf que la profession, déjà à l'époque, au moment des nominations, c'était d'une certaine manière insurgée. C'est très dommage dans un monde qui s'ouvre de se refermer, expliquait un DJ historique des musiques du monde. On a eu Manu Dibango, le chanteur, qui a publié lui aussi une tribune dans Le Monde. Quand on regarde la liste des nommés, on cherche en vain une diversité de couleurs. Ça participe d'une invisibilisation systématique du rap, expliquait Héloïse Bouton, la journaliste et fondatrice de Madame Rap. Et effectivement, c'est assez sidérant de voir qu'en réalité, le rap, qui est aujourd'hui l'une des musiques qui vend le plus en France, on parle du rap que de la nouvelle variété, n'a été nommé qu'une fois et n'a été récupéré qu'une seule fois, vendredi soir. C'était le groupe PNL qui a été primé pour son clip ODD. On en est à 137 millions de vues sur YouTube pour ce clip tourné sur la Tour Eiffel dont on a beaucoup parlé. Évidemment, les deux frères n'étaient pas présents pour recevoir leur prix. Une absence qui met en valeur d'une certaine manière la façon dont, semble-t-il, les victoires ignorent le rap et les rappeurs ignorent les victoires. Et dans les catégories reines, c'est Philippe Catherine qui remporte le titre de l'artiste masculin de l'année. Il a lui-même plaisanté en prenant la fin de la distinction de genre, en essayant de faire voir d'autres catégories. Même Franck Riester, ministre de la Culture, qui était présent, s'est fendu d'un petit commentaire pour expliquer que ces évolutions étaient relativement malheureuses. Il dit néanmoins faire confiance à l'Académie des Victoires pour se réformer à nouveau toute seule. Alors, en conclusion, on peut essayer de se demander ce que nous disent ces deux crises. On a eu la crise de la critique. Est-ce que la critique est toujours légitime? Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la crise des pères, puisque dans les deux cas, ce sont les pères qui jugent leurs pères. Alors, il semblerait qu'à l'heure d'Internet, peut-être la question même, l'idée même de distinguer des œuvres qui étaient initialement destinées, en fait, à augmenter la visibilité de certains artistes semble agacée. On ne sait plus bien si ce sont les cérémonies qui sont censées apporter de la visibilité ou si elles essayent de suivre la visibilité objective pour, d'une certaine manière, légitimer leur existence propre. Elle met aussi en valeur les dissensions au sein de ces professions, avec la fameuse question « Ok, boomer ». On le sait, on l'avait dit, l'Académie des Césars est composée à moitié par des gens qui ont plus de 70 ans. Du côté des Victoires de la Musique, on est sur une cérémonie qui doit être un moment télévisuel. Là encore, c'est la vraie question. Elle s'adresse à des spectateurs qui ont, en moyenne, eux aussi, plus de 60 ans. C'est intéressant de regarder quel âge on se désormais. Ces deux cérémonies, les Victoires de la Musique, ça date de 85, ça a donc 35 ans. Les Césars de 67, ça a donc 45 ans. Deux institutions en pleine crise de la quarantaine, c'est relativement jeune. Est-ce que ça veut dire que dans 5 ans, elles seront toujours là? On se pose la question. C'est suffisamment jeune, en tout cas, pour avoir l'énergie, on peut l'espérer, de se réformer.
Une réaction, Michel Guérin, à la fois sur les Césars et les Victoires de la Musique.
Ce que ça veut dire, je pense qu'il y a les deux problèmes, c'est que, je pense, ces manifestations d'auto-célébration d'une profession où on fait croire qu'une profession est unie, Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que la société est hyper fracturée, elle est hyper fracturée au niveau des publics, donc de ceux qui assistent. Et je pense, par exemple, que tous les jeunes qui aiment les blockbusters au cinéma, je suis pas sûr qu'ils adorent les Césars. Et de la même façon, c'est aussi une fracturation de ceux qui créent. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une fracturation au niveau des genres, au niveau des âges, enfin, etc. Et que les gens sont de moins en moins, comment dire, ils ont moins en moins d'appétence à se retrouver, à faire croire qu'on est unis et amis, quoi.
Et voilà, l'histoire et de tous soirée, défendre le même artiste au fond, voilà, chaque année.
Et,
ouais.
Et d'ailleurs, la cérémonie des Césars de l'an dernier a été la plus mauvaise de son histoire. Je rappelle que les Oscars, qui ont eu lieu il y a peu de temps, ce fut la pire audience de toute leur histoire. Donc, on peut s'interroger sur vraiment ces manifestations. Est-ce que c'est vraiment opportun?
Bien.
Elles ne font pas recette. C'est ça qu'il faut bien souligner, c'est qu'elles ne font plus recette à la télévision. Donc, à la fois en interne, elles sont un peu critiquées, et lorsqu'elles vont chercher du public, elles n'atteignent pas leur but.
Néanmoins, on peut quand même dire qu'elles ont encore, c'est pas le cas pour les Victoires de la Musique, mais c'est le cas pour les Césars et pour les Oscars dans une certaine mesure, c'est pas tout le temps vrai, mais elles ont encore un effet tout simplement sur les publics pour les films. On sait qu'encore aujourd'hui, c'est là où ça reste quand même assez intéressant, quand Parasite remporte 3 Oscars, il est à nouveau dans les cinémas aux États-Unis et en France, même si en l'occurrence, il n'en avait pas vraiment besoin. Et c'est le cas notamment aux Césars, où certains films, certaines nominations peuvent complètement relancer la carrière d'un film. Donc c'est aussi dans cette mesure-là qu'il est difficile encore aujourd'hui de savoir si elles ont du succès ou si elles sont complètement terminées, parce qu'elles ont encore, même à minima, une forme de fonction, même commerciale.
Vous êtes d'accord avec ça, Michel?
Oui, bien sûr. Non, il y a une vraie utilité. Déjà, moi, je pense que toute manifestation qui incite les gens à aller au cinéma, écouter de la musique, voir acheter des...
Tout simplement parler et débattre.
Bien sûr, c'est très très bien. Maintenant, il faut se poser des questions, quoi.
Eh bien, on se les est posés, on a en tout cas essayé de poser des questions à défaut d'avoir des réponses. Pour terminer dans l'actualité, un petit coup de gueule, Zoé Sfez.
Un petit coup de gueule commun,
qui concerne
nous le partageons tous les deux.
Tous ceux qui vivent en Île-de-France, mais au fond, ça devrait aussi concerner ceux qui prenaient le TER ou des lignes de bus qui ont été en grève au mois de décembre et en janvier, à savoir le remboursement des passes Navigo.
Oui, alors vous le saviez, elle l'avait annoncé, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle a annoncé triomphalement qu'à partir du vendredi 31 janvier, on pouvait tous les titulaires d'un pass Navigo qu'ils avaient payé pour le mois de décembre pouvaient déposer une demande de remboursement d'un mois d'utilisation de ce fameux pass Navigo sur une plateforme internet www.mondedommagementnavigo.org. Alors, le principe, c'était effectivement de pouvoir rembourser ce mois de décembre à tous les gens qui l'ont acheté, quelle que soit la forme, en tout cas la nature de leur contrat, avec le pass Navigo. Alors, c'est une plutôt belle nouvelle pour les usagers de la RATP, mais elle pose une question de fond. En juin 2018, on en avait parlé ici dans Soft Power, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le syndicat de la presse sociale avait publié une enquête sur ce qu'on appelle l'électronisme, c'est l'illettrisme numérique, on en a parlé ici beaucoup, de l'accès au numérique qui révélait des chiffres relativement connus mais qui restent importants. 15% de la population française rencontre, je cite, de réelles difficultés avec Internet. 25% n'est pas du tout à l'aise avec le numérique et l'informatique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on se rendait compte que quasiment tous les champs de population étaient touchés, y compris les habitants de l'Île-de-France. Ils sont 19% à dire qu'ils sont face à de réelles difficultés avec Internet. Évidemment, c'est un problème qui touche en majorité les jeunes seniors, 50-64 ans, les CSP et les inactifs, dans une plus large manière. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la manière dont la RATP a choisi de dédommager les gens pour le pass Navigo exclut de facto toute une frange de la population française. En tout cas, rend très difficile, rend d'autant plus difficile que dès qu'il a été mis en ligne, ce site, il était fait pour gérer 50 sollicitations simultanées à la seconde. Il a buggé pendant quasiment 2 semaines. Aujourd'hui, ça se passe un petit peu mieux, mais tout a été fait pour que ce soit extrêmement compliqué. D'une manière générale, pour les gens qui remplissent leurs demandes sur tablette ou sur smartphone, s'ils ont un pass Navigo à 8 ou 9 chiffres, ce qui n'est pas le cas de tous, le système était bloqué. On apprend dans certains articles, au bout de 2 semaines, qu'il faut mettre un 0 avant son identifiant. Si on commence une demande, qu'on a un problème de connexion, il faut ensuite vider le cache de son navigateur pour pouvoir réussir à remplir cette formule. De la même manière,
Si vous avez un pass Navigo, alors Navigo découverte, la seule manière d'être remboursé, c'est une lettre chèque. Donc vous deviez télécharger un justificatif de domicile, l'entrée dans la base de données, téléchargement qui buguait lui aussi. Donc si vous aviez déjà réussi à passer toutes ces étapes, vous êtes en droit, et je crois que vous avez réussi, vous Frédéric Martel, à obtenir un mail qui vous garantit qu'on vous remboursera dans les 3 semaines. Tout ça, vous l'avez vu, moi je me suis connectée au moins 9 fois. Avant de réussir à remplir cette demande. Cette demande, on a à peine 6 semaines pour la fête, puisque le 12 mars, ce n'est plus possible.
C'est fini.
En revanche, le service client, hein, pour être sûr que cette idée marche bien, ne sera en ligne que le 27 février. Donc, un mois après la mise en ligne de ce... Tout ça pourrait être drôle.
Oui, on aurait pu
si
tout
en réalité,
simplement
ça n'avait pas simplement des idées. Il n'y avait pas derrière, évidemment, une volonté, probablement, de miser sur le fait qu'une partie des gens sera trop ennuyé pour le faire, une partie oubliera. D'ailleurs, on peut faire un sondage comme ça, c'est assez intéressant de voir que personne ne connaît les dates. Et surtout, elle mise probablement sur une forme de manque de compétence de toute une partie des usagers de la RATP. Ça, c'est honteux parce qu'effectivement, ça aurait pu se passer tout simplement en station, ne serait-ce qu'en station.
Oui, et puis surtout, à partir du moment où on est prélevé chaque mois, par exemple, lorsqu'on a un abonnement annuel ou lorsqu'on est étudiant, il suffisait de ne pas prélever le mois de mars ou de février, et les choses auraient été beaucoup plus simples, mais évidemment, le coût, sans doute, aurait été beaucoup plus important pour la RATP, puisque tout le monde aurait bénéficié de ce remboursement, ce qui n'est peut-être pas tout à fait leur objectif. Bon, enfin voilà.
On vous renvoie à nos bonnes émissions sur la formation.
Voilà, et puis ça concernait les consommateurs numériques, c'est pourquoi on en parler ce soir. À suivre dans Soft Power, politique culturelle décentralisée ce soir, un peu avant les municipales, mais juste avant et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur West Side Story qui débute à Broadway à New York cette semaine. Nous y étions vendredi soir, avant même la presse d'ailleurs, qui n'a été autorisée à voir le spectacle que cette nuit, donc hier soir, et je dirais qu'il y aura un avant et un après West Side Story à Broadway en termes d'utilisation de la vidéo. La mise en scène de cette nouvelle version de la célèbre comédie musicale est signée Ivo Van Hove, le metteur en scène flamand, et elle est époustouflante. Van Hove multiplie les lectures de l'histoire avec l'action sur scène d'une part, l'action en coulisses filmée et projetée sur grand écran d'autre part, ou encore les scènes de bataille de rue filmées elles-mêmes par des acteurs caméramen qui sont sur la scène. Le résultat est formidable, la chorégraphie est signée Anne-Theresa de Kersmacher et la distribution tout aussi remarquable, Isaac Powell dans le rôle d'Anthony, blessé d'ailleurs lors des répétitions, mais qui reprend déjà le rôle, et surtout Shireen Pimentel dans le rôle de Maria ou Amar Ramassar dans celui de Bernardo. Le musical se veut parfois politique, avec des images du mur entre les États-Unis et le Mexique, ou encore des vidéos sur les violences policières. Il évoque aussi le New Jim Crow, hein, comme on dit, à savoir l'incarcération massive des Noirs et des Hispaniques dans les prisons américaines. Le casting est presque entièrement noir d'ailleurs, ou latino. 32 acteurs jouent à Broadway pour la première fois, un record. Et on entend beaucoup plus d'espagnol d'ailleurs que dans la version originale. Le producteur du show à l'époque était le célèbre Roger Stevens, hein, qui deviendra par la suite le premier ministre entre guillemets de la culture américaine sous la présidence Johnson. Et le producteur cette fois n'est autre que Scott Rudin, fort connu à Hollywood et à Broadway, au caractère d'ailleurs tempétueux mais bourré de talent. Cette reprise de West Side Story, qui on l'espère viendra en France dans quelques mois, réussit enfin à rendre artistique une comédie musicale qui était plutôt cantonnée dans le registre divertissement. C'est le retour au fond aux origines, à savoir le Roméo et Juliette de Shakespeare, réimaginé à l'heure de Black Lives Matter et de Me Too. La scène du viol d'ailleurs est très forte, filmée dans le drugstore en vidéo en coulisses. Évidemment, on connaît tous les titres de cette comédie musicale légendaire que l'on doit à un duo lui-même légendaire, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Zoé Sfès, vous connaissez tout ça par cœur.
Absolument par cœur, bon, mais effectivement c'est très très excitant, je vous envie beaucoup Frédéric Martel d'avoir vu cette production, on espère vraiment qu'elle viendra en France. Ce qui est intéressant, c'est que cette production, donc, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle revenait à Broadway, ça fait 10 ans qu'elle n'était plus à Broadway. Elle revient à Broadway alors que, on l'avait appris il y a 2 ans, on en avait parlé ici, Steven Spielberg a annoncé qu'il faisait un remake de West Side Story film.
Pour les fêtes de fin d'année.
Pour les fêtes de fin d'année en 2020. Or, c'est vrai que ce qui est fou dans cette comédie musicale, c'est l'extraordinaire, d'une certaine manière, l'extraordinaire modernité et du sujet et de la musique. C'est Bernstein, ça ne vieillit pas. Et cette question, disons,
de deux populations paupérisées dans New York, dont une est hispanique, sur la question de l'immigration, mais ça n'a pas pris une ride. Et dans le contexte post-Trump, on avait vraiment envie de voir quelque chose qui réactualise le propos. Or, il semblerait que Steven Spielberg ait choisi de faire un remake très couleur de l'époque, quoi, dans les années 50, avec, on a eu quelques images du set. Donc moi, j'avais une forme d'inquiétude en me disant, est-ce qu'on va passer à côté de la réactualisation de ce propos très moderne? Par ailleurs, le film, lui encore, n'a vraiment pas vieilli. On est sur une très très belle réalisation de Jerome Robbins. Donc effectivement, cette reprise par Yves Auvent-Neuf, qui est quand même un des metteurs en scène les plus intéressants, et justement l'un des seuls qui arrive à faire quelque chose d'intéressant avec les vidéos, est clairement quelque chose qu'on attendait. On se rappelle déjà qu'en 62, au moment où le film est sorti, le fait de caster Natalie Wood, qui est une actrice blanche, qui était d'origine russe, avait été un vrai scandale à l'époque, parce qu'on avait d'ailleurs évincé plusieurs jeunes femmes qui jouaient le rôle titre à Broadway pour avoir une star en fait à l'affiche. Et là, je trouve que c'est important que finalement cette sublime comédie musicale, qui encore n'a pas pris une ride, soit défendue avec ses meilleures couleurs
à Broadway. Une nouvelle génération, et d'ailleurs aucune star, puisque personne n'était connu, mais sans doute le deviendront-ils. À préciser encore que pour le film de Spielberg, le scénario est confié à Tony Kushner, donc auteur de Angels in America, donc on verra.
Mais ça peut pas être très mauvais.
Ce que ça va donner, on aura ça au moment des fêtes de fin d'année, je l'ai dit. Et puis rappelons aussi que déjà les critiques qui ont réussi parfois à voir la mise en scène de cette comédie musicale, comme moi, tout simplement en achetant un ticket, considèrent que c'est un peu ce qu'avait fait au fond Disney avec Le Roi Lion lorsqu'ils font venir Judith Taymor pour la mise en scène, c'est-à-dire la réalisatrice, la metteuse en scène de Bread and Puppets, c'est-à-dire du théâtre d'avant-garde le plus sophistiqué. Et bien là, on a Teresa de Kersmacher, on a Yvonne Van Hove pour quelque chose qui est plutôt de l'ordre du divertissement, comme toujours à Broadway aux États-Unis, ce mélange entre la haute culture, la culture de masse, tout ça remixé, mélangé dans une commémoration et en même temps une manière de faire un revival. C'est West Side Story, c'est à Broadway pour au moins sans doute plusieurs mois.